6h.
La matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
Toute l'actualité de ce mardi 7 mai 2024.
Les livres, c'était sa vie. Bernard Pivot est mort hier à l'âge de 89 ans et Radio Classique lui rend hommage ce matin. Le Hamas donne son accord à un cessez-le-feu à Gaza. On attend maintenant la réponse d'Israël qui bombarde la ville de Rafah. Et puis moitié moins de pesticides d'ici 2030. Le gouvernement maintient le cap dans sa nouvelle version du plan Ecophyto.
Après ce journal, pas de panique. L'été, les JO et la suite. Tout va bien se passer pour le tourisme. C'est le message du gouvernement aux professionnels. On va le voir dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain. Les entreprises ont un besoin urgent de s'occuper de la santé mentale de leurs salariés, nous dira notre premier invité. Et puis les classiques de l'économie, une page d'histoire qui hante encore les têtes et la politique en Allemagne. L'hyperinflation dans les années 20, racontée par Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, Radio Classique, rend hommage à Bernard Pivot ce matin.
Et celui qui a fait aimer les livres à tant de Français est mort hier. Il avait 89 ans. Et aussi bien en tant que journaliste littéraire, créateur d'Apostrophe, que président de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot incarnait profondément la culture à la française, Lucie Dupressoir.
Bernard Pivot, influenceur littéraire comme il se qualifiait lui-même. La presse d'abord au Figaro littéraire, la télé ensuite sur Antenne 2. 15 ans de tête-à-tête avec des auteurs pour Apostrophe, Marguerite Duras, Mylène Kundera, puis Bouillon de culture et son fameux questionnaire de Proust.
Robert Banater, votre mot préféré ?
Justice.
Le mot que vous détestez ?
Racisme.
Votre mot préféré, Éric-Emmanuel Schmitt ?
Dodu.
François Giroud ?
Pour sa sonorité tubéreuse. Pour son sens tendresse.
Amoureux des mots, il crée les Dicodores en 85, championnat de dictée en France et dans le monde.
L'orthographe, c'est ce que c'est, mais c'est de l'écologie culturelle. Il faut respecter les mots comme on respecte les animaux, les arbres ou les plantes.
Défendre la langue française, le sens qu'il donne à son mandat au Goncourt. En 2014, il est le premier non-écrivain à la tête de l'Académie. Une présidence de réforme, un prix plus transparent et surtout beaucoup de lectures jusqu'à 14 heures par jour.
C'était mon boulot. Il y a des chauffeurs de taxi qui roulent 10 à 12 heures par jour aussi dans Paris.
Une vie consacrée au travail. En 2019, il démissionne de l'Académie Goncourt. 4 ans plus tard, à 87 ans, c'est assez chronique dans le JDD qu'il renonce. Le mal m'a frappé à la tête, siège du cerveau et de la parole.
Bernard Pivot, homme de lettres, homme de médias, c'était un visage que tous les Français connaissaient et beaucoup ont l'impression d'avoir perdu quelqu'un de leur famille ou un ami. Philippe Labreau, lui, était un de ses proches. Le journaliste et écrivain va regretter un ami, oui, mais aussi un grand homme.
Pour le livre, pour la littérature, pour les mots, pour le langage, pour notre culture, la France a perdu un homme qui a eu un rôle, mais majeur, considérable. Pivot, pour moi, c'est un des plus grands journalistes de sa génération, des plus grands intervieweurs, et surtout, et aussi, un défenseur du livre. Les libraires ont vécu grâce à lui, les éditeurs ont vécu grâce à lui, et les Français aussi. C'est grâce à lui qu'encore aujourd'hui, en France, bien plus qu'ailleurs, le livre continue d'avoir une importance considérable. On va se souvenir de lui très longtemps. Il s'inscrit dans l'histoire de la culture en France. C'est une légende, Pivot.
Philippe Labreau répondait à Marine Salaville.
Radio Classique 6h03. Gaza aussi, entre espoir de trêve et bombardements israéliens.
La balle est dans le camp d'Israël, c'est ce que laisse entendre le Hamas. Il a donné son accord à la proposition de cesser le feu des médiateurs égyptiens et qataris hier soir, Pierre Pilet.
Une proposition d'accord loin des exigences israéliennes, selon l'entourage de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Accord qui comprend trois phases, d'après la branche politique du Hamas. Un retrait total d'Israël, de la bande de Gaza. Le retour des déplacés, qui s'entassent notamment à Rafah, dans le sud de l'enclave. Et un échange de prisonniers palestiniens contre des otages détenus par le Hamas. Comme à l'automne dernier. Jusqu'à présent, Israël s'est toujours opposé à un retrait. Benjamin Netanyahou a répété ces derniers mois viser une victoire totale. L'armée israélienne a encore mené des frappes aériennes tard hier soir et tôt ce matin sur la bande de Gaza, d'après des témoins et des sources sécuritaires palestiniennes. Et hier, les soldats ont donné l'ordre d'évacuer une partie de Rafah, bastion du Hamas, ce qui entre dans la préparation d'une opération terrestre dans la zone, selon le porte-parole de l'armée israélienne. De nouveaux pourparlers indirects sont néanmoins prévus aujourd'hui au guerre en Égypte. Une délégation israélienne se rend sur place pour maximiser les chances de parvenir à un accord. C'est ce que fait savoir le cabinet de guerre israélien.
Vous le disiez, Pierre, Israël bombarde Rafah et prépare une offensive terrestre. L'Égypte met en garde contre les dangers d'une opération militaire. Et les États-Unis, alliés d'Israël, ont redit leur opposition à toute offensive terrestre à Rafah. Si Israël mène effectivement cette opération, son image va encore être ternie dans le monde. On s'en rend compte à peu près dans tous les événements, y compris à l'Eurovision qui a lieu cette semaine à Malmö en Suède. Israël participe au concours, comme c'est le cas depuis 50 ans. Sauf que cette année, les menaces sont nombreuses. La police suédoise redoute et se prépare à tous les scénarios, Fabien Albert.
Si aucun détail n'a filtré sur leur nombre, les effectifs de la police suédoise ont été renforcés avec un armement plus lourd. L'armée est en appui et des policiers danois et norvégiens ont été appelés en renfort. Aux abords et dans l'enceinte du concert, les drapeaux palestiniens et autres messages politiques sont interdits. En revanche, des manifestations pro-Palestine auront lieu à Malmö. Une jeudi, jour de la demi-finale d'Israël, une autre samedi pour la finale. 25 000 personnes devraient défiler selon les organisateurs. De son côté, Israël a demandé à ses ressortissants de ne pas se rendre en Suède. Pour ceux qui désobéiraient, il leur est recommandé de télécharger une application de l'armée utilisée en temps normal en prévision des tirs de roquettes sur le sol israélien. Enfin, pour pouvoir participer à ce concours qui se veut apolitique, la chanteuse israélienne Eden Golan a été contrainte de modifier les paroles de sa chanson. Ainsi, le titre « Pluie d'octobre », référence au massacre du Hamas, est devenu « Ouragan ». La sécurité intérieure israélienne de conseillère à l'artiste de ne pas quitter sa chambre d'hôtel durant tout son séjour en Suède.
Cette guerre à Gaza a des effets délétères en France aussi, avec la flambée des actes antisémites, 366 au premier trimestre 2024, soit une augmentation de 300% par rapport aux trois premiers mois de 2023. C'est aujourd'hui que Vladimir Poutine est investi président pour un cinquième mandat à la tête de la Russie. Hier, la Russie a annoncé la tenue prochaine d'exercices militaires près de l'Ukraine et les forces russes pourraient frapper des cibles militaires britanniques. Le porte-parole du Kremlin se justifie en disant que c'est pour répondre aux menaces proférées par des dirigeants occidentaux. Est-ce que la Chine va tempérer les menaces russes? C'est ce qu'espèrent Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après leur discussion avec Xi Jinping hier à l'Élysée. Aujourd'hui, le président français et son homologue chinois prennent de la hauteur au col du Tourmalet dans les Pyrénées.
Le gouvernement veut toujours réduire de 50% l'utilisation des pesticides d'ici 2030.
La nouvelle version du plan Ecophyto a été présentée hier avec du retard. Le plan avait été retardé au moment de la crise agricole cet hiver. Cette nouvelle version insiste surtout sur la recherche de solutions de remplacement aux pesticides, Zoé Pallier.
Des colonies de pucerons ravagent chaque année des champs de betteraves, mais pour les éliminer, les agriculteurs doivent renoncer aux néonicotinoïdes. L'entreprise Agriodor teste depuis 3 ans une alternative. Alain Thibault, son directeur général.
On met des petits granulés qui font à peu près 3 mm dans le champ. Le granulé va diffuser des odeurs que l'homme ne peut pas sentir, mais le puceron, lui, va sentir et ce sont des odeurs répulsives. Donc on va éviter que le puceron s'installe sur la betterave.
Mais avant d'être commercialisé, un produit comme celui-ci, dit de biocontrôle, doit être homologué et cela peut prendre 10 ans. Le gouvernement veut donc accélérer les procédures. Des laboratoires étudient aussi des solutions techniques, comme des robots qui aident au désherbage, mais aussi agronomiques. Corentin Barbu est chercheur à l'INRAE, spécialiste des pesticides.
Il y a possibilité de baisser de 30% l'utilisation de produits phytosanitaires, sans perte de rendement ou en tout cas de marge pour les agriculteurs. Quelque chose qui a marché dernièrement, c'est les mélanges de variétés de blé. Ça augmente un peu la résistance à des maladies, mais surtout ça permet de lisser le rendement.
Mais pour se passer totalement de pesticides, cela ne suffira pas, précise ce chercheur. Il faudrait pour cela revoir notre alimentation en consommant par exemple moins de viande et plus de légumineuses.
Victor Wembanyama élu à l'unanimité rookie de l'année en NBA. Alors je vais traduire pour ceux qui ne suivent pas le basket américain toutes les nuits, arrive. Un rookie, c'est un basketteur qui fait ses débuts dans le championnat NBA et Victor Wembanyama a accompli une première saison exceptionnelle avec les San Antonio Spurs.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était votre journal de 6h à tout à l'heure 7h. Juste après ce journal, tout de suite, donc le gouvernement va chouchouter les acteurs du tourisme. Aujourd'hui à Matignon, on va le voir dans les titres de l'économie dans un instant, puis ce sera le moment d'accueillir notre premier invité. Les entreprises font face aux questions de santé mentale de leurs salariés. Ils leur apportent des réponses.